Europe 1.
Europe 1, 10h-11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, oui c'est Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politiques, réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Paul Lassène. Avec nous, à ma droite incontestablement, Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. À ma gauche, très probablement, Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques, enseignant à Sciences Po. Et ni à ma droite, ni à ma gauche, Canteloup.
Emmanuel Macron accueille aujourd'hui une dizaine de chefs d'État pour commémorer le débarquement. On l'accueille tout de suite. Bonjour, monsieur le président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Et oui, aujourd'hui, nous commémorons le débarquement. La France, pardonnez-moi, vous le savez, a été envahie par la bêtise, la brutalité, la violence, oui. Donald Trump est arrivé ce matin sur notre territoire.
Oula. Bon, les relations ne sont toujours pas au beau fixe entre vous. Hein. Et vous allez avoir un déjeuner avec lui hein, à la préfecture de Caen hein, tout à l'heure.
Hein. Oui. Oui, aujourd'hui est un jour où il faut comprendre le sacrifice de ceux qui nous ont libérés. Et quoi de mieux pour comprendre ce que c'est qu'un sacrifice, pardonnez-moi, qu'un déjeuner à la préfecture de Caen.
Non, s'il vous plaît. Non, sérieusement, vous êtes apparu particulièrement ému hier hein, avec les vétérans.
Oui, parce que ces vétérans, ce ne sont pas juste des petits vieux en fauteuil ou en béquille avec 32 médailles qui distendent les mailles de leur pull.
Oh, le détail.
Vous savez, hier, je suis allé voir des vétérans. Ils dînaient. Oui, ils dînaient.
Oui.
Et pendant qu'ils faisaient des bulles avec leur purée,
oh là là.
Je me suis dit que ce sont des héros. Je tiens à leur rendre hommage ce matin. Bravo les gars, bravo. On ne sait jamais s'ils nous écoutent et que leur sonotone n'a pas grillé.
Alors en vérité, ça c'était donc le résumé fait par notre ami Canteloup sur Europe 1 jeudi matin, le 6 juin, le D-Day. Mais en vérité, Donald Trump et Emmanuel Macron n'ont cessé d'échanger des amabilités à quelques rares exceptions près. Les relations entre vous et moi et celles entre la France et les États-Unis sont exceptionnelles, a dit Donald Trump. Les liens sont indestructibles entre les États-Unis et leurs alliés. Alors, est-ce que cette mise en scène d'une amitié forte et puissante, alors que les désaccords sont innombrables sur le multilatéralisme, sur l'Iran, sur la guerre commerciale, j'en passe et des meilleurs, est-ce que cette mise en scène à quelque chose d'artificiel, d'absurde et de contre-productif, ou au contraire, est-ce qu'elle vient un peu mettre du baume au cœur et atténuer les choses, Yves Tréhard ?
Ouais, elle est là pour justement atténuer un peu les choses. Je pense que c'est la partie diplomatique et visible des relations franco-américaines et entre l'Amérique et l'Europe, d'ailleurs. Parce que c'est intéressant de voir la situation de l'état de nos relations à la lumière justement du passé. Parce que c'est quoi le D-Day et les années qui suivront? C'est justement une période de multilatéralisme, de concorde, de solidarité pour reconstruire un monde. Et alors que là, aujourd'hui, ben justement, c'est tout le contraire. En miroir, c'est une période d'unilatéralisme voulu par Donald Trump, pas uniquement avec la France, mais avec tous les pays, avec un ennemi de l'Europe d'ailleurs, puisqu'il est arrivé avec un tweet, puisque c'est son mode d'expression préféré, avec un tweet qui exaltait un Brexit dur, une sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe. Donc on ne peut pas dire, si vous voulez, que l'attitude de Donald Trump peut correspondre précisément à son état d'esprit sur la marche du monde et sur la façon de faire.
Je pense que c'est tout le contraire.
Oui, moi je suis d'accord. En négociation, on appelle ça une concession de forme. C'est-à-dire qu'on ne cède absolument rien sur le fond, mais sur la forme, on fait des gentillesses. Au fond, ça se résume en un mot, hein, c'est la main de fer dans un gant de velours. C'est exactement ce que fait Donald Trump. Il échange des amabilités avec Emmanuel Macron, ça ne lui coûte rien. C'est gentil diplomatiquement, ça ne lui coûte rien. Ça renforce vaguement Emmanuel Macron sur la scène nationale, sur la scène internationale, diplomatique. Personne n'est dur, on voit bien, personne n'est dupe. On voit bien que Donald Trump est sur une ligne très dure, sur le multilatéralisme, il n'a pas bougé d'un pouce sur l'accord sur le nucléaire iranien, il n'a pas bougé d'un pouce sur l'accord de Paris, et alors même qu'il échange des gentillesses avec le président français, la veille, le 5 juin, il est en Grande-Bretagne pour faire de l'ingérence directe dans la politique britannique en prenant un Brexit dur et en adoubant Boris Johnson. Donc c'est de la politique, c'est de la diplomatie, en l'occurrence c'est de la diplomatie plutôt bien faite.
Alors il y a un choix qui a été fait qui était de ne pas inviter Vladimir Poutine. Or, précédemment, Vladimir Poutine avait été invité à des commémorations du D-Day. Les arguments, là, sont ceux de la sanction prise, des sanctions prises par les États-Unis et l'Union européenne à l'encontre de la Russie à cause de la Crimée, l'Ukraine, etc. Mais on invite Donald Trump alors qu'il y a beaucoup de reproches à lui faire aussi. Est-ce que c'est une erreur de ne pas avoir invité Poutine ou est-ce que c'est justifié ?
Moi, je l'aurais invité, Poutine. C'est évident parce que je pense que la Russie est la Russie, c'est-à-dire que la Russie n'appartient pas à l'espace européen et qu'il ne faut surtout pas justement chercher à l'absorber parce qu'elle a sa fierté et sa fierté veut qu'elle soit indépendante. En revanche, le prix, on ne va pas rappeler le passé, le prix payé par les Russes pour la libération de l'Europe, qui est probablement supérieur d'ailleurs à celui
par l'Union soviétique et vos amis communistes.
Oui. À l'époque, l'Union soviétique est probablement supérieure au prix payé par les Américains, même si c'est pas des comparaisons à faire. Il aurait fallu justement dans un moment de concorde, il aurait fallu l'inviter.
Vous êtes d'accord?
Oui, je suis plutôt d'accord. L'URSS a payé le plus lourd tribut en nombre d'hommes de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et puis les commémorations, c'est un événement diplomatique justement. C'est l'occasion de se reparler, c'est l'occasion de pouvoir discuter, dialoguer ensemble sans avoir à le faire formellement dans un grand sommet, sans avoir à échanger diplomatiquement en disant qu'on échange diplomatiquement. Non, là on commémore un événement pour lequel nos voisins russes ont payé un tribut extrêmement lourd. Ça aurait été déjà assez normal de les inviter et ça aurait permis d'essayer de renouer un dialogue un peu plus serein avec le président Poutine.
Et sur l'évolution de la perception du débarquement et de la fin de la Seconde Guerre mondiale en particulier. Vous savez, quelqu'un a fait une comparaison très intéressante entre l'état de l'opinion en 45-46, où 57% des personnes interrogées considéraient que c'était essentiellement à l'Union soviétique que l'on devait la victoire contre l'Allemagne nazie, et récemment, 58% qui pensent que c'est principalement aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a totalement transformé notre lecture de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, on a transformé. Et justement, cette période a reçu des interprétations à chaque fois différentes à cause des historiens, à cause de l'évolution, à cause des médias aussi.
La chose qui a transformé cette perception, peut-être qui a été un moment de tournant, ça a été le grand film Le Jour le plus long.
Le Jour le plus long.
Et j'ai appris à l'occasion de ces commémorations que le général de Gaulle était totalement furieux de l'absence complète de la résistance française dans le dit film et avait dit que, avant qu'il ne soit totalement, définitivement monté, et qu'il avait dit, si c'est comme ça, interdiction de tourner en France. Alors, ça aurait été une catastrophe de ne pas tourner en France. Et du coup, on a introduit des scènes avec... notamment au début du film, avec la résistance française.
Exactement.
C'est assez extraordinaire. C'est pour ça que je le cite dans Mediapolis, comment un grand chef d'État perçoit qu'une façon de présenter les choses va peser sur la mémoire et utilise ses armes pour la corriger.
Mais là,
vous saviez ça ? Vous connaissiez cette histoire, Clément Victor ?
Non, je connaissais. Alors, je connaissais pas l'histoire.
Je ne suis pas venu pour rien. Je me suis pas levé pour rien.
Écrite dans le Figaro cette semaine.
Voilà.
Mais ce qui est intéressant,
toute occasion de faire de la pub est bonne pour Tréhard. Oui, toute occasion.
Oui. Non, mais ce qui est intéressant et pourquoi les Américains, les Français pensent que qu'il s'agit d'être plus reconnaissant vis-à-vis des Américains, parce que on a eu la guerre froide et que pendant des années et des années, eh bien l'Union soviétique était le vilain ennemi et que les États-Unis, au contraire, ont toujours été présentés comme les libérateurs. Il y a une autre perception qui n'a jamais été vraiment racontée par les médias au fil des années, c'est que en fait Roosevelt, quand je disais tout à l'heure, c'était le début d'une ère de solidarité, de confraternité, d'atlantisme. Il faut pas oublier que Roosevelt, quand même, voulait mettre la main sur l'Europe en débarquant.
Absolument.
Il voulait surtout pas de De Gaulle. Il est arrivé avec des francs américains dans les bateaux. Et il voulait justement que l'Europe soit à sa botte à ce moment-là.
Alors Clément Viktorovitch et Yves Tréhard, jusqu'à présent, sont d'accord sur tout. Et hors de question que ça continue comme ça. Et probablement pas dans le sujet suivant, qui sont les fractures à droite dans quelques instants.
Olivier Duhamel sur Europe 1.
De 10h à 11h, vous êtes avec Olivier Duhamel pour Mediapolis. Olivier qui est entouré aujourd'hui d'Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, et de Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques et enseignant à Sciences Po Paris.
Et ça a été la semaine de tous les départs. Il s'en est passé des choses depuis samedi dernier. Aujourd'hui, c'est le départ de Theresa May. Dimanche dernier, c'était le départ de Laurent Wauquiez. Et puis, le départ mercredi de Valérie Pécresse.
En femme libre, j'ai décidé de quitter les Républicains. J'ai décidé de quitter les Républicains parce que j'ai acquis la conviction que la refondation de la droite ne pourra pas se faire à l'intérieur et qu'elle doit se faire à l'extérieur du parti. Parce que le parti est cadenassé de l'intérieur. Il est cadenassé dans son organisation, mais il est aussi cadenassé dans ses idées.
Alors, premier commentaire, médias politiques. Beaucoup de gens ont reproché à Valérie Pécresse le moment de ce départ, alors que le chef du parti qu'elle critiquait, auquel elle reprochait justement de cadenasser le parti, avait lui démissionné. Alors, Clément Viktorovitch, vous êtes docteur en sciences politiques, c'est dire... si vous êtes un savant, est-ce que vous pensez qu'il y a là une erreur, au moins médiapolitique ?
Je pense qu'elle a été prise à... Enfin, elle est sur son contre-pied. Elle est sur son contre-pied, c'était peut-être stratégiquement le pire moment pour démissionner. Elle aurait pu partir au moment de l'élection de Laurent Wauquiez, comme l'a fait Xavier Bertrand, en disant « ma ligne n'est pas représentée au sein des Républicains, je reprends ma liberté ». Elle ne l'a pas fait. Elle aurait pu partir au soir de l'élection européenne, en disant « on voit où nous mène la ligne défendue par Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy, dans le mur, je reprends ma liberté ». Elle ne l'a pas fait. Elle part après l'annonce de la démission de Laurent Wauquiez, donc au moment même où elle pourrait prétendre incarner le renouveau du parti. Donc cette démission à ce moment-là, ce départ à ce moment-là, est effectivement illisible en termes stratégiques, c'est sans doute une erreur.
L'explication de sciences politiques. Maintenant, je me tourne vers le journaliste politique, c'est-à-dire celui qui enquête, celui qui sait. Il y a trois explications possibles à son départ, selon moi. La première, c'est qu'elle a profondément décidé qu'il n'y avait plus rien à faire avec les Républicains, qu'il fallait changer, créer un nouveau mouvement politique, et qu'elle a constaté que la plupart des dirigeants actuels n'étaient pas prêts à cette mutation. La seconde, c'est qu'elle aurait bien voulu éventuellement prendre la présidence du parti, mais elle s'est aperçue qu'elle n'y arriverait point. Et la troisième, je ne la connais pas. Yves Tréhard, laquelle des trois ?
Il y a probablement un peu de tout, et c'est surtout la deuxième hypothèse qui me paraît la plus vraisemblable. D'après mes informations, c'est qu'elle a demandé mardi la présidence du parti, elle a dit « je veux être présidente ». Elle s'est rendue compte d'abord qu'on ne lui donnerait pas cette présidence, et deuxièmement, si elle allait aux élections qui sont prévues au mois d'octobre, il est fort probable qu'elle n'aurait pas été majoritaire à l'intérieur du parti. Pourquoi le parti aujourd'hui est réduit à ce qu'il est ? C'est parce qu'à l'intérieur, vous avez des militants qui sont sur cette ligne, qui est une ligne, on va dire, sans que ça soit péjoratif, traditionnel, je dirais, tradit même, d'une certaine façon, et qui n'est pas la ligne qui est défendue par Valérie Pécresse, si tant est qu'elle est une ligne d'ailleurs. Je pense que Valérie Pécresse, de toute manière, aurait dû partir... puisqu'elle était en désaccord depuis le début, elle avait toujours dit, elle était en désaccord depuis le début, en 2017, c'est-à-dire depuis que Wauquiez avait pris la présidence, elle était en désaccord. Donc elle aurait dû partir depuis le début. Et je dirais même qu'elle aurait dû partir avant l'élection de Laurent Wauquiez. Parce que l'honneur de Valérie Pécresse et de Xavier Bertrand après la déroute présidentielle, c'eût été de se présenter face à Laurent Wauquiez. Et ils sont velléitaires, ils ont sans doute pensé qu'ils n'y arriveraient pas, qu'ils seraient mis en minorité, et donc ils sont sortis du parti pour ce qui est de Xavier Bertrand, et elle l'a mis en veilleuse.
Et vlan pour eux. Alors voilà. Maintenant, je voudrais vous soumettre une autre hypothèse. J'ai été invité en catastrophe à participer un peu à l'émission qui précède parce que l'invité avait son avion qui était en retard et donc j'ai fait le bouche-trou avec beaucoup de bonheur. Et on m'a interrogé sur, Patrick Cohen m'a interrogé sur est-ce qu'il est possible que les Républicains disparaissent ?
Oui.
Et moi je dis oui, et je dis oui pourquoi ? Je dis oui en faisant un parallèle avec le général de Gaulle 1958 et le destin du grand parti de la droite modérée de l'époque qui s'appelait les Indépendants et Paysans. Mmh. De Gaulle commence en récusant le clivage droite-gauche, en se situant au-dessus, et termine avec un nouveau parti gaulliste qui devient le grand parti de droite parce que la logique des institutions de l'élection présidentielle, du scrutin majoritaire pour législative, inéluctablement conduit De Gaulle à être ce qu'il n'aurait pas voulu être. Bah. Et c'est en train d'arriver à Emmanuel Macron, qui devient le chef de la droite, ce qui ne laisse plus d'espace, au moins dans ce scénario, ce qui ne laisse plus d'espace du tout pour les Républicains, qui risquent de devenir un petit mouvement comme les Indépendants et Paysans. Ce scénario, il est possible, Clément Viktorovitch ? Ça vous fait sourire, je ne sais pas pourquoi.
Le scénario me semble possible. De toute façon, tout le monde voit bien aujourd'hui que...
Mais pourquoi vous souriez ? Vous trouvez que mon truc est stupide ? Ou ça vous réjouit que les Républicains disparaissent ?
Non,
quelle est la raison de votre sourire que les auditeurs ne voient pas ?
Ni l'un ni l'autre. Ce qui me faisait sourire, c'est la phrase « Emmanuel Macron est devenu le leader de la droite ». Comme si ça lui était tombé dessus par inadvertance. Un matin, il se lève, il descend de son lit et hop, il est devenu leader de la droite.
Enfin, je n'avais pas donné cette causalité délirante. Hein, c'est vous qui l'a présenté maintenant.
Tout à fait. C'est moi qui l'a caricaturé un petit peu. Non, mais il faut dire, c'est pas que Emmanuel Macron est devenu leader de la droite. Emmanuel Macron a mené une politique de droite. Enfin, à un moment donné, quand vous êtes élu pour... Enfin, pas déjà pour le faire, et puis quand vous faites la suppression de l'ISF, la transformation en IFI, la flat tax sur les revenus des dividendes, que vous menez une politique que certains diront pro-business, que d'autres diront pro-riche, selon le camp politique auquel on appartient. Quand vous faites la loi anti-casseurs, qui était quand même une proposition des Républicains eux-mêmes, quand vous réintégrez l'état d'urgence dans le droit commun. Bref, quand vous menez une politique de droite, vous ne pouvez pas vous étonner derrière de devenir le leader de la droite. C'est vous qui l'avez choisi.
Il a mené une politique de droite et il est devenu le leader de la droite. Voilà ce que nous dit le jeune Clément Viktorovitch. Yves Tréard vous dira dans quelques instants si il est d'accord avec Viktorovitch et si Maréchal Marion, de son prénom, qui est l'autre intervention de la semaine, vient troubler ce jeu. Très vite.
10h-11h, Mediapolis, avec Olivier Duhamel sur Europe 1.
Le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Yves Tréard, et le docteur en sciences politiques et enseignant à Sciences Po Paris, Clément Viktorovitch, sont vos invités ce matin, Olivier Duhamel, dans Mediapolis.
Eh oui, Yves Tréard, donc, Clément Viktorovitch nous dit, mais il est le leader de la droite et il fait une politique de droite, point, clair, cadré. Vous êtes d'accord ? Il, Macron, bien sûr.
Bien sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord depuis le début, puisque je le dis depuis le début. Ouais. Il fait une politique de droite et il a un électorat de droite, puisque c'est l'électorat de droite principalement qu'il soutient, ou qui est issu de la droite qu'il soutient aujourd'hui.
Donc 17 milliards de dépenses publiques supplémentaires, augmentation de la prime d'activité...
Est-ce que la droite a su résoudre le problème de la dette et du déficit en France ? Jamais. C'est bien le problème, justement. C'est que... aujourd'hui, la critique de la droite vis-à-vis d'Emmanuel Macron n'est pas considérée comme sincère et quelque peu crédible par beaucoup d'électeurs, parce qu'ils savent que la droite, justement, n'a pas tenu la promesse de la politique qu'elle voulait faire. Surtout d'ailleurs sur la résorption de la dette et des déficits. Donc il est là le sujet, c'est que...
Donc il n'y a plus de place du coup pour les Républicains.
C'est-à-dire que les Républicains aujourd'hui n'ont rien à dire. Si vous prenez par exemple...
Mais je vous demande, je vous demande pas s'ils sont bons ou mauvais, je vous demande si du si fait que vous êtes d'accord tous les deux pour dire... Parce que vous êtes tout le temps d'accord, ce qui devient un peu...
Gênant,
mais tant pis, vous avez le droit d'être d'accord.
Moi je suis sincère, surtout.
Et puis... lui aussi, je vous signale, il n'y a pas que vous.
Non, mais ce que je vais vous dire par là, c'est que...
Mais est-ce qu'il y a un espace ? À partir du moment où vous nous dites tous les deux, Macron fait une politique de droite, et à vous entendre que de droite, même si moi je ne suis pas d'accord, c'est votre point de vue à tous les deux, et je le respecte. Il est devenu le leader de la droite, est-ce qu'on en conclut que, quel que soit leur talent, il n'y a plus d'espace entre En Marche Macron... et Rassemblement National, Marine Le Pen.
Si vous me laissez défendre et poursuivre ma théorie, enfin ma théorie, ma démonstration, ce que je voulais vous dire, c'est que actuellement, il y a un espace qui n'existe plus pour la droite, effectivement, parce qu'ils sont pris complètement en étau entre le Rassemblement National et La République En Marche, c'est-à-dire entre Le Pen et Macron. Mais vous savez comment ça se passe, la politique en France. La politique en France, pour qu'elle soit audible, et pour que le discours soit audible et reçu, il faut qu'elle soit incarnée. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'incarnation d'une quelconque politique de droite.
Macron, vous venez de nous le dire tout à l'heure.
Il n'y a pas d'incarnation aux Républicains, j'entends. Si vous aviez une forte incarnation avec quelqu'un qui, et je pense que la droite ne pourra se reconstruire, la droite traditionnelle, classique, ne pourra se reconstruire comme ça, si vous avez quelqu'un qu'on ne connaît pas aujourd'hui d'ailleurs. Ne me posez pas la question de savoir si c'est Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Gérard Larcher ou un autre. Ils n'y arriveront pas de toute manière.
Ils ne sont pas rendus alors parce qu'il va falloir plus de temps.
Que si Macron se casse la figure, si Macron se casse la figure et n'obtient pas de résultats politiques, là, éventuellement, ils pourront marcher comme roue de secours. Mais la seule façon pour la droite de se reconstruire, il faut que quelqu'un arrive de nulle part, avec un projet nouveau.
Clément Viktorovitch.
Non mais selon moi, l'espace politique des Républicains s'est réduit comme peau de chagrin au cours des deux dernières années, parce que les espaces politiques, c'est des choses qui évoluent de manière dynamique. Ce qu'on a vu, c'est que Emmanuel Macron a mené une politique économiquement libérale, très libérale, sans doute plus que ce que l'on pourrait imaginer, ce qui évidemment est venu empiéter sur un espace politique naturel des Républicains. En parallèle, il ne faut pas oublier ça, le Rassemblement National a fait évoluer sa ligne politique, notamment sur l'Europe. Exactement, il faut quand même rappeler que pendant l'élection présidentielle, Marine Le Pen voulait sortir de l'Europe, sortir de l'euro, on ne savait pas exactement comment, mais on savait qu'elle voulait le faire. Ce qui inquiétait les électeurs, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui.
Donc il n'y a plus d'espace, mais...
L'espace s'est réduit. Alors, il reste un espace quand même spécifique pour les Républicains, qui est un espace assez particulier, c'est celui de François-Xavier Bellamy. C'est-à-dire une droite qui reste conservatrice sur le plan...
C'est celui de Marion Maréchal.
Alors, c'est aussi celui de Marion Maréchal, ouais. Mais qui pour l'instant reste périphérique dans le jeu politique. On verra si elle revient effectivement, si elle cherche à rassembler sur son nom. Mais aujourd'hui, les Républicains sont ceux qui incarnent cette droite catholique traditionnelle.
Et encore, c'est même pas démontré, puisque si vous regardez le sondage qui a été fait sur l'électorat catholique juste après l'élection européenne, vous apercevez que les catholiques pratiquants ont majoritairement, enfin une majorité d'entre eux plutôt, ont voté pour Emmanuel Macron. Donc,
oui, parce qu'ils ont, ils ont choisi de voter pour l'économie davantage que pour la religion.
Vous avez des catholiques pratiquants qui ne sont pas traditionnalistes. Et vous avez des traditionalistes qui ne sont néanmoins pas catholiques pratiquants. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Ça
ne se recoupe pas. C'est pour ça que au-delà de la question de la religion, c'est la question d'avoir une ligne conservatrice sur le
bien
plan
sûr,
des valeurs.
Ça, bien
et ce qu'on voit, c'est que cette ligne-là, on sait désormais ce qu'elle représente. Elle représente 8% de l'électorat, en tout cas si on en croit les résultats aux européennes, ce qui n'est pas rien, mais ce qui ne suffit pas à rassembler un camp.
Ce qui n'est pas rien, mais sur lequel maintenant il y a OPA de Marion Maréchal.
Exactement.
Donc ça réduit encore plus le peu d'espace.
C'est pour ça que...
Non mais ce qui se passe, c'est que... Et d'ailleurs, c'était la lecture que faisait Valérie Pécresse après le scrutin de...
Attendez. Je suis obligé de vous dire, là, cette lecture, vous nous la dites, mais dans quelques instants.
D'accord.
10h, 11h, Olivier Duhamel sur Europe 1.
Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, mais avec aussi Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques et enseignant à Sciences Po Paris, et Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.
Donc, nous terminons... ces analyses sur l'état et le destin de la droite de gouvernement et des Républicains, analyses sombres pour eux, vous considérez donc, vous faites même le pari en quelque sorte, que d'ici à 2022, ils n'ont aucune chance de reconquérir le pouvoir. Enfin, et en 2022.
La chance est mince.
Que tous les prétendants actuels n'ont aucune chance.
Parce que ils sont dus, en grande partie, je pense, aux yeux de l'opinion, et notamment de l'opinion de droite, je pense qu'ils sont assez abîmés. Leur image est fort abîmée parce qu'ils n'ont pas, su justement relever le gant et prendre des décisions courageuses au bon moment. Y compris d'ailleurs, me semble-t-il, Xavier Bertrand. Et en plus est arrivé effectivement Emmanuel Macron qui conduit, en dépit de ce que vous dites, il conduit une politique de droite parce que même sur les points où on peut l'attaquer en disant qu'il n'est pas de droite, c'est-à-dire sur l'immigration... sur la laïcité.
C'est bien que vous appuyez attaquer le fait de ne pas être de droite.
Oui, allez-y. Sur l'immigration, sur la laïcité, sur tous les problèmes régaliens, ça ne porte pas, parce que les attaques sont, d'une certaine façon, de mauvaise foi. Parce qu'il a justement, il a rien dit de précisément qui soit incompatible.
Donc,
de deux choses l'une. Soit il se casse la figure et la droite peut éventuellement renaître en substitution. Soit il y a quelqu'un qui aujourd'hui arrive de nulle part et incarne une nouvelle droite, mais je pense qu'il n'est pas né avant 2022.
Donc la conclusion, vous pariez sur la réélection d'Emmanuel Macron sauf accident, et vous, Clément Viktorovitch, pareil ?
Ah non, pas du tout. Pas du tout, mais pour une raison simple, c'est que qui aurait pu prévoir Emmanuel Macron en 2014 ? Qui aurait pu prévoir Emmanuel Macron à 3 ans du scrutin de 2017 ? Donc non, moi je pense que 3 ans c'est très long. Qui aurait pu prévoir ne serait-ce que les gilets jaunes quelques mois avant le début de la crise sociale que
Donc,
nous avons connue ?
Par exemple, Le Pen peut être élu.
En tout cas, il n'y a rien de mécanique à parier sur l'élection d'Emmanuel Macron.
Donc par exemple, Le Pen peut être élu ?
Quel Le Pen ?
Donc, par exemple, Marine Le Pen peut être élue ?
Je pense que l'élection de Marine Le Pen n'est pas une impossibilité. Ça me semble aujourd'hui être une improbabilité, mais ça ne me semble pas être de l'ordre de l'impossible.
Donc, Jean conclut que vous, le jeune, vous faites dans la prudence et vous n'irez en aucun cas sur Betty News. Vous, Yves Tréhard, Betty News, peut-être que vous allez prendre votre risque. Qu'est-ce que c'est Betty News ? C'est Paul Lassaigne qui a découvert la création d'un site d'information en ligne lancé par l'ancien directeur de l'Express, Guillaume Dubois, sur lequel vous pouvez parier. Betty News permet aux lecteurs de parier sur l'actualité, chaque article et donc chaque pari, prenant la forme d'une question à laquelle vous devez répondre oui ou non. Ce que j'essaie souvent d'obtenir avec difficulté de mes invités. Parmi les premiers articles publiés, des questions d'économie. La hausse des prix en France en mai sera-t-elle plus élevée que le plus 0,3% d'avril ? Des questions de culture, de sport et de politique. Un remaniement ministériel aura-t-il lieu cette semaine ? Et les meilleurs joueurs peuvent même gagner de l'argent. Le site offre aux 20 joueurs dont la cagnotte a le plus augmenté dans la semaine une dotation allant de 5 à 100 euros. Le meilleur score de la semaine reçoit 500 euros, son dauphin 200 euros et le troisième 100 euros. Donc évidemment, les paris ne sont pas encore ouverts pour 2023, mais dès qu'ils sont ouverts, Yves Tréhard, allez-y. Tandis que vous, Clément Viktorovitch, attendez prudemment la veille du premier tour, voire du second, tellement la jeunesse est chaudée.
Voire le lendemain du second tour.
Ah oui, c'est ça. Ouais. Je pense que les paris sur qui gagnera ne seront pas ouverts le lendemain. Là. Vous avez fumé la banquette quand même. Hein. Bon. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là de l'autre côté ? Pendant ce temps-là, on va regarder les conséquences de l'autre nouveauté des élections européennes, qui a été, enfin en tout cas nouveauté relative, puisque pas perçue et puisque pas systématique dans le passé, la grande percée des écologistes. On y vient dans quelques instants.
Olivier Duhamel sur Europe 1.
Comme chaque samedi, on vous retrouve, Olivier Duhamel, avec Mediapolis. Et ce matin, jusqu'à 11h, vous êtes entouré d'Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, et de Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques et enseignant à Sciences Po Paris.
Alors Yves Tréhard, il fait de temps en temps la pub du Figaro, mais il n'écoute pas nos pubs parce qu'il y en avait une pour le Figaro Magazine.
Si, j'ai entendu. Guillaume Roquette.
Ouais. Dans lesquelles, arrêtez, vous étiez en train de parler là. Vous savez que Guillaume Roquette est le patron qui fait les pubs, c'est tout. Et dedans, il y a une page avec les primés du prix Sciences Po de la photographie politique. Je vous le recommande. Pour une fois, vous lirez le Figaro Magazine, Yves Tréhard. Et pendant ce temps-là, non pas le Figaro Magazine, mais le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, nous dit « Ne vous faites pas d'illusions sur les écolos ».
Attention, après l'euphorie, il faut redescendre. En fait, il faut quand même se souvenir que ça, il y a déjà eu une mode écologiste. En 2009, souvenez-vous, Daniel Cohn-Bendit fait 16%, un peu plus de 16% des voix aux européennes. Le PS est derrière lui. Et trois ans après, à la présidentielle, le PS gagne l'élection puisque François Hollande est élu président de la République. Et les écologistes, eux, font 2%. Tout ça pour vous dire que ça peut s'inverser. Évidemment, parce que les européennes sont un scrutin qui, traditionnellement, profite aux écologistes. Hein. Et puis aussi, il y a autre chose, vous savez, c'est que aujourd'hui, on est en train de se rendre compte, après l'élection, c'est toujours mieux quand ça arrive après, que finalement, les écologistes, quand la poussière retombe, selon l'expression de Jean-Luc Mélenchon, c'est un mouvement qui finalement n'est pas si consensuel que ça. Partout ailleurs sur le territoire, eh bien, il faudra faire des alliances. Et avec qui ? Est-ce qu'ils le font avec la gauche comme ils l'ont toujours fait ? Ou avec les macronistes ? Bref, beaucoup de questions.
Donc beaucoup de questions, des précédents qui n'invitent pas à croire au succès. Néanmoins, on a quand même assisté à une sorte de mue de la part du tête de liste écologiste Yannick Jadot qui a voulu prendre des habits de présidentiel. L'un des premiers habits de présidentiel, ça consiste à avoir sa photo dans Paris Match, à ne plus cacher sa compagne, à être mentionné dans Closer, enfin toutes ces choses de au niveau intellectuel caractéristiques de l'époque de la crétinisation du politique. Est-ce que Yannick Jadot peut devenir présidentiable?
Je ne sais pas, j'entendais le patron de Valeurs Actuelles, bon, comparaison n'est
pas raison. Votre visage dit non et votre prudence dit je ne sais pas.
Je suis prudent. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est le propos de Jadot, y compris après l'élection, quand il a dit « il faut qu'on apprenne à être un parti de gouvernement ». De mémoire, c'est la première fois que j'entends un écologiste dire ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour agiter, je dirais, les idées, pour être une force d'appoint, pour la gauche, principalement, puisque l'écologie, depuis 1974, est principalement de gauche en France, mais pour être un parti qui gouverne. Et c'est tout à fait étonnant. J'étais avec cette semaine Éric Piolle, qui est le maire de Grenoble, qui est un maire écologiste, tendance beaucoup plus radicale d'ailleurs d'une certaine façon que Jadot, et il me disait la même chose. Il faut qu'on apprenne à être un parti de gouvernement, qu'on sache maintenant gérer un pays. C'est un discours nouveau que n'avait ni Cohn-Bendit, qui ne prétendait pas d'ailleurs être un homme politique, qui n'a jamais prétendu, et que n'avaient pas tous ceux qui représentaient la gauche, Duflot et autres.
Clément Viktorovitch.
Oui, moi, j'attends de voir ce que deviendra l'avenir de Yannick Jadot.
Non, mais attendez, mais vous êtes d'une prudence.
Mais je vous dirais
un vieux MRP normand, quoi.
Alors, je vais mouiller un peu plus.
Je ne sais pas, c'est possible.
Oui, mais vous allez voir, je vais mouiller un peu plus. En commençant par dire que, selon moi, ce ne sont pas les écologistes qui ont réussi un bon score lors de ces européennes, parce que Europe Écologie Les Verts, quand on regarde les précédents scores du parti, ils sont quand même misérables. Donc je serais très surpris que tout d'un coup, ce soit le parti qui soit devenu extrêmement puissant. Je suis extrêmement mesuré sur le fait que ce soit l'écologiste, c'est-à-dire Yannick Jadot, qui ait réussi un bon score à l'élection européenne. Car enfin, si on reprend, là maintenant, il y a une illusion rétrospective. Tout d'un coup, tout le monde dit Yannick Jadot est formidable, il est merveilleux. Bon, peut-être l'est-il. Mais si on reprend la campagne, j'ai pas du tout l'impression que sa personnalité, sa communication politique personnelle est imprimée tant que cela dans les débats. Qu'est-ce qui a gagné en réalité? C'est l'écologie politique, ça d'accord. Pour plusieurs raisons, déjà d'une part, alors j'ai pas de preuves, mais mon intuition, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, mais mon intuition me fait quand même dire que pourquoi les électeurs ont voté pour Europe Écologie Les Verts? Parce que sur le bulletin, il y avait marqué le mot écologie et que le bulletin était vert. Et ce que l'on voit, c'est que l'écologie politique, c'est devenu la matrice politique commune
de
tous les partis.
De l'intelligence de l'électeur, oui.
Non, mais l'écologie politique, c'est devenu la matrice politique commune de tous les partis de la gauche. C'est ce que toutes les lignes à gauche avaient en commun. Et ce dont on peut faire l'hypothèse, c'est que dans l'isoloir, les électeurs de gauche se soient dit, je veux voter pour une ligne écologique, finalement, pour que mon vote soit le plus clair possible, je vote pour le bulletin qui est vert avec marqué écologie dessus. Donc pour moi, il y a un moment écologique aujourd'hui. Je crois que ce qui a gagné, c'est l'enjeu écologique.
Alors Régis Debray, lui, a écrit un texte dans lequel il dit que c'est beaucoup plus qu'un moment, que c'est un changement radical d'époque.
Je pense, oui.
Le basculement d'un anthropocentrisme au biocentrisme. Nous passons de l'homme maître et possesseur de la nature à l'homme sauveur et serviteur de la nature.
Oui, fort heureusement, je pense que le basculement est en train de se faire. D'ailleurs, le vote EELV était majoritaire chez les moins de 25 ans.
C'est contradictoire avec ce que vous venez de dire, alors.
Non, parce que, pour moi, le moment, ça n'est pas un moment qui est lié ni à un homme ni à un parti. C'est lié à un enjeu. C'est le fait qu'il y a une prise de conscience.
Est-ce que ça peut exister à la présidentielle et jusqu'à porter un président à la tête de l'État?
Oui, je pense que oui. Je pense que s'il y a une alternative à Emmanuel Macron à gauche, elle se fera sur une ligne écologique. Mais est-ce que cette ligne sera portée par Yannick Jadot? Peut-être, pourquoi pas, on ne peut pas l'exclure, honnêtement.
Un retour de la prudence.
Ça ne me semble pas être la seule option du tout. Je pense qu'il y a d'autres personnalités qui pourraient réussir à s'imposer. On parlait tout à l'heure de l'incarnation. Il va falloir incarner cette ligne écologiste.
Avec qui, par exemple, d'autres que Jadot pourrait l'incarner?
Il y a d'autres personnalités à gauche. Je pense à Anne Hidalgo, par exemple, à Paris. Alors, il faudra voir ce que donnera la municipale de 2020.
Si Anne Hidalgo
venait à gagner l'élection municipale, les élections municipales à Paris, elle serait en position de force. Et croyez-moi, elle est au moins aussi légitime que Yannick Jadot. Oui, mais elle serait au moins aussi légitime que Yannick Jadot pour incarner cette ligne écologiste.
Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il à la France insoumise? Ça va pas terrible, dans un instant.
Olivier Duhamel sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel. Olivier qui reçoit ce samedi Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques et enseignant à Sciences Po Paris, et Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro.
Et si je reprends la ligne proposée, l'explication proposée il y a 40 ans par feu Frédéric Bon et Michel-Antoine Burnier, en politique on cherche la défaite que le meilleur perde, alors record battu c'est la France insoumise, parce que les Républicains n'ont réussi à chuter que de 12 points par rapport au premier tour de la présidentielle, 13 points de chute à la France insoumise, c'est la fin pour eux, Yves Tréhard ?
Oui, tu vas dire c'est la fin des partis. Moi je pense qu'aujourd'hui, on le voit dans tous les partis, ils sont tous complètement éclatés. il n'y en a pas un, même les Verts dont on vient de parler, ils ne sont absolument pas unis, me semble-t-il. Et donc, c'est la fin des partis. Je pense qu'on va vers une politique qui est incarnée par un individu, une femme ou un homme. Ce qui a d'ailleurs souvent été le cas.
Bon, là, je suis en désaccord radical avec vous, mais je n'ai pas le temps de développer la thèse. Je pense qu'on ne peut pas. Alors, les partis seront autres, différents.
Non, mais ils s'organiseront autour d'un
mouvement politique. Oui, mais il n'y a pas la fin des partis.
Alors, je continue. Ils s'organiseront autour d'un homme ou d'une femme.
Donc, ils ne disparaîtront pas. Ils se transformeront, mais ils ne disparaîtront pas.
Oui, mais la fin des partis, telle qu'on les a connus jusqu'à présent.
Ah, il manquait la fin de la phrase.
Telle qu'on les a connus. Donc, ils se constitueront autour d'un homme ou d'une femme.
Mais la constitution même d'un nouveau type, d'une force politique puissante, quasi populiste à la gauche de la gauche, ça c'est un feu de paille, mais ou au contraire c'est risque d'avenir, parce qu'on voit Podemos très affaibli, la France insoumise très affaiblie, Die Linke affaiblie en Allemagne, ces élections européennes si on les regarde aussi avec un peu de retrait,
mais parce qu'il a fait une erreur majeure, il a fait deux erreurs majeures, il a fait une erreur politique et une erreur comportementale, Mélenchon. L'erreur politique, c'est que Mélenchon en 2017, après 2017, avait les moyens de mettre la main sur la gauche, sauf que au lieu de se recentrer, comme d'ailleurs Marine Le Pen l'a fait à la droite de la droite, il s'est radicalisé.
Et la deuxième erreur ?
Et la deuxième erreur, c'est l'erreur qui, à mon avis, a été ravageuse pour lui, c'est la perquisition, son électorat a été assez choqué par ses propos.
Et vous, d'un mot, vous répondez à la même question, parce qu'il faut que je vienne vers Trump pour finir l'émission.
Moi, d'un mot, je pense que ça va être très compliqué pour Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Je pense qu'il a épuisé l'intégralité de son capital personnel au moment de la perquisition, et c'est une blessure dont on se relève difficilement. Quant à la France insoumise, à l'heure actuelle, ça me semble compliqué, parce que je ne vois pas qui pourrait incarner autant que Jean-Luc Mélenchon l'a fait, ce mouvement.
Très bien, donc vous employez le vocabulaire des commentateurs sportifs quand quelqu'un est mené, par exemple, à Roland-Garros, 2-7 à 0 et 5-1 dans le troisième set, vous dites ça va être très compliqué.
Oui, ça va être très compliqué. En effet. De fait, dans ce cas-là, c'est très compliqué, oui, en effet.
Alors, il y a une chose qui n'est pas compliquée, c'est que Trump, lui, il n'arrête pas. Et donc, Alice Baudry, directrice de la stratégie du développement à l'Institut Montaigne, qui fait une veille des médias à l'international pour nous, a repéré une communication dans Vox. Vox, qui est un média d'actualité généraliste qui fait partie du groupe Vox Media. Ce n'est pas le parti d'extrême droite en Espagne, ne confondons pas. Sans surprise, Vox a profité de la visite d'État de Donald Trump au Royaume-Uni pour publier une analyse du comportement du président dans un article sous-titré « Mauvais tweet, déclaration mal avisée, ignorance, tout y est ». La visite a commencé par l'envoi de tweets depuis son jet Air Force One, appelant le maire de Londres, Sadiq Khan, un loser complet. Non, mais vous imaginez, je ne sais pas moi, Trump, même Poutine ou Xi Jinping arrivant de leur avion, Hidalgo, loser complète. Bon, évidemment, Tréhard serait fou de joie, mais enfin, c'est juste impensable. Bon. Et c'est terminé avec l'envoi de tweets à 1h30 du matin pour qualifier l'actrice britannique Bette Midler de psychopathe fini. Donc un président des États-Unis qui vient traiter de psychopathe des actrices. Entre-temps, il a été interviewé sur CNN par Piers Morgan, où il a témoigné, selon l'article de Vox, d'une ignorance effroyable au sujet des questions climatiques. Il a rencontré Nigel Farage, mais a refusé de rencontrer Jeremy Corbyn. Des milliers de manifestants anti-Trump sont descendus dans les rues de Londres pour marquer le coup, mais Trump a tweeté sans aucune preuve que les foules étaient celles qui s'étaient rassemblées pour soutenir les États-Unis et moi-même. Vers la fin de sa visite, Trump a quitté l'Angleterre pour se rendre à Donegal, une petite ville côtière d'Irlande, abritant un terrain de golf qu'il possède et dont il tire profit. Oui. Alors, pour moi, ça quand même reste un des très très grands mystère ou une des très grandes preuves du basculement dans un monde politique et médias politiques radicalement différents, c'est que quelles que soient les pitreries de Trump, quelles que soient les choses insensées dont on vient de voir en fait encore un résumé, ça ne lui nuit en rien et il va de succès en succès.
Ah mais alors, Olivier, moi je suis en désaccord avec vous. C'est pas que quelles que soient les pitreries de Trump, ça ne lui nuit en rien. C'est que ce que nous appelons des pitreries, je pense, est la raison pour laquelle il est élu. Pour moi, là, on est sur un moment où en politique, ce qui est critiqué, c'est l'insincérité. On a le sentiment que les leaders sont insincères, qu'ils passent leur temps à mentir. C'est les critiques qu'on a entendues beaucoup lors de la campagne sur Hillary Clinton. Et là, on a un Donald Trump qui, quoi qu'on en pense, nous autres, Français, Européens, on a un Donald Trump qui est... Il est comme il est. Il tweet comme il tweet. Il parle comme il parle. Il dit n'importe quoi. Il est ignorant. Il ne s'en cache pas. Mais au moins, il est authentique. Et je pense que ça, c'est une qualité qui est perçue positivement par une partie ou même par son électorat.
Eh bien, on vous laisse le mot de la fin. Plus il fait n'importe quoi, plus ça marche parce que c'est authentique. Autrement dit, la chanson qui suit, on va la dédier à ceux qui sont tristes que la raison ait disparu de l'univers politique. On va la dédier à ceux qui sont tristes que Theresa May ait démissionné. On va la dédier à ceux qui sont tristes que Valérie Pécresse ait quitté les Républicains ou Laurent Wauquiez. Et puis vous pouvez allonger la liste. Gilbert Bécaud, et maintenant.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre, sans toi, c'est petit. Mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis,
allez, remettez-vous. Et merci à Jean-Luc Arblade et Paul Lassène. Merci à nos deux invités, Yves Tréard et Clément Viktorovitch.
Merci Olivier.
Merci.
Merci Justine. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour Laurent, qui a une bonne nouvelle pour ceux qui aiment les cerises d'ailleurs, n'est-ce pas Laurent?
Merci Olivier, bonjour Justine. Ça y est, il est venu le temps des cerises. On vous emmène les cueillir dans le Vaucluse avant de les cuisiner. Notre dossier du jour est consacré aux cuissons qui nous veulent du bien. Un sujet important en cette période de barbecue. Et c'est Marc Lavoine qui viendra casser la croûte avec nous. A tout de suite Justine.
A tout de suite Laurent.